Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
Une Bunagana, toujours occupée par le M23. L'armée peaufine des stratégies pour reconquérir cette cité, alors que certains responsables politiques comme Martin Fayulu appellent à la rupture diplomatique avec le Rwanda. Problématique de financement des jeunes entrepreneurs, analyse et perspectives. C'est autour de ce thème que le ministère de l'Entrepreneuriat et d'autres orateurs ont conscientisé les étudiants hier à Kinshasa. Il s'agit en somme d'inciter les jeunes étudiants à obtenir des diplômes et créer eux-mêmes des emplois en lieu et place d'en chercher. Et puis, l'invité de ce matin, Mwamba Mushinkoke, président de la Commission nationale des droits de l'homme, en séjour à Bunia, il dresse l'état des lieux des droits de l'homme en Ituri dans le contexte de l'insécurité. Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes d'abord au Nord Kivu. La cité de Bunagana est toujours entre les mains des rebelles du M23 jusqu'en début d'après-midi d'hier jeudi. Plusieurs sources renseignent que l'armée a lancé une offensive hier, tôt le matin, contre les occupants à partir de l'ouest de la cité de Bunagana. L'issue de cette attaque n'est pas encore connue pour l'instant, l'armée n'ayant pas encore communiqué sur la question. Des tirs ont été entendus le matin d'hier vers 6h locale dans la zone au quatrième jour d'occupation de Bunagana. Le porte-parole des opérations Sokola 2 a indiqué que les FARDC étaient en train de repousser l'ennemi sans plus de précision. Toutefois, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko a annoncé une communication sur cette offensive plus tard. Sachez par ailleurs que Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, et Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, ont été reçus hier par le président Félix-Antoine Tshisekedi, tout en se disant préoccupé par la situation de l'Est de la RDC. Wang Xia a dit espérer que tous les efforts diplomatiques engagés pour la résolution de cette crise aboutiront à une solution satisfaisante. Justement, par rapport à cette agression de la RDC par le Rwanda à travers le M23, le parti politique Engagement citoyen pour le développement, SID, demande au gouvernement congolais de rompre les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Dans une conférence de presse hier à Kinshasa, Martin Fayulu, président de ce parti, membre de la plateforme politique Lamuka, appelle la CIRGL et l'Union africaine à actionner les mécanismes appropriés pour rétablir la paix dans la région. Martin Fayulu Madidi l'a dit à Paul Matendo Mayamba.
Nous demandons la rupture immédiate des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Le départ sans délai de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, le rappel de notre ambassadeur à Kigali et la levée de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À la CIRGL, nous demandons à son Excellence le Président João Lourenço de poursuivre ses efforts de médiation dans le sens de ramener la paix dans la région. Au Conseil de sécurité des Nations Unies et à tous les pays épris de paix et de justice, nous leur demandons de condamner sans hésitation le Rwanda pour violation du droit international tel que codifié dans la Charte des Nations Unies.
L'autre réaction vient du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC. Ce parti appelle à la mobilisation de tous les Congolais pour exiger des Nations Unies la levée de la mesure d'embargo sur les armes infligées à la RDC. Dans une déclaration à la presse hier, depuis les États-Unis d'Amérique, le président de ce parti, qui s'est défini comme membre de l'opposition extra-parlementaire, affirme que c'est pour permettre à la RDC de défendre son intégrité territoriale et faire face à cette énième agression des pays voisins. Il appelle aussi les Congolais à la vigilance. Justin Moudekereza est au téléphone de Jean-Désiré Kanyama.
Moi et mon parti politique, le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement MDVC, condamnons encore une fois et avec la dernière énergie l'agression de notre pays par le Rwanda et ses alliés. Encourageons les forces armées de la République à poursuivre sans désemparer la défense de l'intégrité du territoire national. Appelons à la mobilisation générale pour exiger aux Nations Unies de condamner fermement ces actes et de lever l'embargo sur les armes infligées à notre pays, qui pourtant doit faire face à cette énième agression de pays voisins.
De son côté, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, fait quelques recommandations sur le traitement de l'information par rapport à la situation des conflits armés dans l'est du pays. Au cours de la 90e session ordinaire tenue hier à Kinshasa, les membres de cette institution d'appui à la démocratie demandent aux professionnels des médias de s'interdire de programmer pendant cette période des émissions à téléphone ouvert concernant la guerre dans l'est du pays. Le reste de ces recommandations avec le rapporteur du CESAC, Chantal Kanimbo, est au micro de Paul Matendo Mayamba.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication recommande de traiter et de diffuser les informations relatives aux conflits intercommunautaires et aux guerres dans l'est du pays avec professionnalisme en privilégiant tout ce qui est susceptible de promouvoir la cohésion et l'unité nationale. De s'interdire pendant cette période de programmer des émissions à téléphone ouvert concernant la situation de la guerre dans l'est du pays. Aux professionnels des médias, de respecter scrupuleusement les textes légaux et réglementaires régissant la profession ainsi que les règles d'éthique et de déontologie journalistique. Aux acteurs politiques et sociaux, d'éviter tout discours susceptible d'aggraver les conflits intercommunautaires, de démoraliser et de démobiliser l'armée.
Dans l'actualité aussi, le coup d'envoi hier dans la capitale du Cuivre du colloque organisé par l'archevêché de Lubumbashi portant sur le vivre ensemble. Cette rencontre de ses voeux, un cadre de réflexion pour prévenir des tensions et les conflits sociaux afin de garantir une société meilleure fondée sur l'unité dans la diversité et le respect des particularités. Ce colloque connaît aussi la présence de la Conférence épiscopale nationale du Congo. D'autres détails avec Jean Ganduka Bongo.
L'archevêque métropolitain de Lubumbashi a dans son discours indiqué que nous sommes une société plurielle, cosmopolite et une mosaïque de cultures. Et cette société est caractérisée notamment par des tensions dues, entre autres, aux incompréhensions, à la crise sociale, aux intolérances qui peuvent engendrer plusieurs méfaits, dont l'insécurité qui peut également mettre à mal le vivre ensemble. Pour cela, ce colloque est une opportunité pour les participants, parmi lesquels des représentants des communautés étrangères et nationales vivant à Lubumbashi, de réfléchir sur le thème « Osons une fraternité ». Constructive au-delà de nos différences. L'objectif est de baliser le terrain pour que tous ceux qui vivent dans cet espace développent l'essence du vivre ensemble et cultivent la tolérance et l'acceptation de l'autre pour une société prospère qui aspire au développement pour le bien de tous. Pour le prélat catholique, le vivre ensemble est un itinéraire à la recherche de l'équilibre, de l'harmonie et qui doit se fonder notamment sur la tolérance et le respect mutuel. Notons que ce colloque connaît aussi la participation des membres des partis politiques toutes tendances confondues, les professeurs d'université, membres de la société civile ainsi que ceux des associations socioculturelles et autres. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Les ministres de la Justice des États membres de la CIRGL ont résolu hier de combattre la criminalité transfrontalière sous toutes ses formes et de lutter contre l'impunité dans la région. C'était au terme de leurs travaux axés sur le renforcement de la coopération judiciaire entre États. Ces travaux ont été présidés par le Premier ministre avec l'adoption de plusieurs résolutions par la déclaration de Kinshasa. Explication avec Jeff Ngoy.
En ce qui concerne le refus d'exécution d'entraide judiciaire, les ministres de la Justice encouragent la coopération régionale et internationale en matière criminelle entre pays. Il convient de réduire les motifs de refus d'exécution des demandes d'entraide judiciaire, notamment celui de double incrimination. Sur le plan de prochaines démarches prioritaires visant la mise en œuvre effective de la déclaration de Nairobi, ils chargent leur réseau de continuer à encourager les contacts et l'échange d'expériences entre points focaux comme moyen de contribuer à la mise en œuvre de cette déclaration. Ils réconfortent la mise en place et l'implémentation des mesures de protection spéciale pour les magistrats d'affaires sensibles ainsi que les victimes et les témoins. Les ministres recommandent à leur réseau de travailler en consultation avec la société civile pour s'assurer que les droits des victimes soient pris en compte dans le cadre de la coopération judiciaire. La criminalité transnationale organisée, y compris le terrorisme, a augmenté en ampleur. Ainsi, les ministres de la Justice résolvent d'y mettre fin par la mutualisation des efforts à travers cette coopération.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont clôturé mercredi la session ordinaire de mars. Plusieurs matières ont été examinées par les deux chambres du Parlement avant la clôture. C'est notamment l'adoption du rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat sur la loi électorale. Face aux divergences persistantes sur certaines dispositions contenues dans cette loi, l'Assemblée nationale a décidé de statuer en dernier ressort conformément à l'article 135 de la Constitution. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
Avant la clôture de la session dans les deux chambres, la plénière s'est attardée sur l'audition et l'adoption du rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat chargée d'aplanir les divergences apparues lors du vote de la loi électorale en des termes non identiques. La commission n'ayant pas réussi à aplanir ces divergences, notamment autour des sanctions aux membres de la CENI et l'attribution d'office du siège à la femme ayant obtenu le plus grand nombre de voix, les députés ont opté pour l'application de l'article 135 de la Constitution qui stipule qu'en cas de désaccord persistant, c'est le texte de l'Assemblée nationale qui est soumis au chef de l'État pour promulgation. Les sénateurs ont adopté le rapport de la commission paritaire après avoir harmonisé les vues sur quelques points de divergence. Les vues ont été harmonisées notamment sur les seuils de recevabilité des listes, la transparence dans la traçabilité des résultats, mais aussi sur le contentieux électoral. Notez tout de même le cafouillage dans lequel ces rapports a été adopté sans déterminer à la plénière le point d'harmonisation, déplore Jacques Joly du G13.
Je vous le disais en titre, le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises invite les étudiants congolais à obtenir des diplômes de fin d'études pour créer des emplois plutôt que pour en chercher. Au cours d'une conférence scientifique hier à l'Université pédagogique nationale UPN, ici à Kinshasa, Eustache Mwanzi a présenté les opportunités de financement que le gouvernement met à la disposition de la jeunesse pour un encadrement dans la création des entreprises. Des précisions avec Billy Van Lutumba.
Problématique de financement des jeunes entrepreneurs, analyse et perspective, c'est autour de ce thème que le ministre de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, Eustache Mwanzi Mumbembe, aux côtés d'autres orateurs, professeurs d'université, ont conscientisé les étudiants. Ainsi a-t-il insisté sur l'engagement de tout un chacun.
Ce programme gouvernemental permet de susciter l'esprit entrepreneurial dans le chef, non seulement des jeunes que vous êtes, mais de l'ensemble des Congolais, pour que demain, cet esprit-là, d'avoir un diplôme pour chercher l'emploi, plutôt avoir un diplôme pour créer de l'emploi. Il y a trois volets que nous avons, trois C, capacitation, crédit, et tout cela dont on doit se faire, tout le passé, c'est comme climat des affaires.
Le ministère de l'Entrepreneuriat a donné l'occasion au FOGEC, Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat en RDC, et le PADEM PME, projet d'appui pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises, d'expliciter les préalables pour bénéficier de l'encadrement.
Le premier critère pour FOGEC, c'est être congolais et que le business soit pour des Congolais. Nous aidons l'entrepreneur même qui n'est pas formalisé, mais nous allons l'aider plutôt à entrer dans le formel.
Un des objectifs de cette conférence est de parvenir à comprendre le niveau d'implication de la formation universitaire dans le domaine entrepreneurial.
L'UNICEF lance la campagne Bopé Tonakelasi ou propriété à l'école. Elle vise à sensibiliser les enfants sur la gestion des déchets dans les établissements scolaires et au sein des ménages, ainsi qu'à impulser un esprit entrepreneurial aux adolescents dans le recyclage des déchets. Cela dès la rentrée scolaire prochaine. Pour ce faire, deux jeunes ambassadeurs climat de l'UNICEF s'engagent à sensibiliser 500 élèves dans 24 communes de Kinshasa. Cette campagne a été lancée hier à l'école Sainte-Germaine de Njili en marge de la célébration de la journée de l'enfant africain. Sarah Soumbela signe ce reportage.
Cette campagne s'ouvre sous le thème national « Parce que nous n'avons qu'une seule terre, je m'engage à la protéger avec mes condisciples à l'école ». Emmanuel Gidis, sa jeune ambassadeur pour le climat auprès de l'UNICEF, qui a pris la parole en premier, a présenté le plaidoyer de son fonds.
Ce projet est un projet des enfants, par les enfants et pour les enfants. Ainsi, je demande à Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté, d'être notre premier allié dans ce projet. À Monsieur le ministre provincial de l'éducation de faciliter la mise en œuvre de ce projet à l'UNICEF ici représenté, de continuer d'appuyer ce projet afin de l'étendre dans toutes les écoles du pays.
Quant à Sylvie Sona de la cellule de la communication de l'UNICEF à son tour, s'est exprimée sur l'importance d'avoir un environnement sain pour les enfants à l'école.
Une mauvaise gestion des déchets a de graves conséquences sur la santé des enfants et sur l'environnement. L'UNICEF va remettre des poubelles aux établissements scolaires identifiés dans le cadre de cette campagne Bopé Tonakelasi. L'UNICEF s'engage à aider les jeunes Congolais à agir pour protéger leur avenir et leur planète.
La durée de cette campagne est de 7 mois, qui est une idée des deux enfants ambassadeurs du climat de l'UNICEF, Emmanuel Judissa et Ketia Passou.
Actualité internationale.
Nous sommes au Maroc. Le roi Mohamed VI a contracté une forme asymptomatique du Covid-19, a annoncé jeudi le professeur Lassen Beliamine, médecin personnel du souverain. Par conséquent, le médecin a prescrit une période de repos au souverain durant quelques jours, indique un communiqué du médecin personnel du roi.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mwamba Mushinkonke Mwamous, séjourne à Bounia depuis la semaine dernière. Outre des rencontres avec ses partenaires, il a également réceptionné le bâtiment construit par la MONUSCO pour abriter le tout premier bureau provincial de cette institution de l'État à Bounia. Dans une interview accordée à Radio Kapi, il dresse l'état des lieux des droits de l'homme en Ituri dans ce contexte d'insécurité et en RDC en général et les défis à relever. Il revient aussi sur l'apport de la MONUSCO pour la promotion des droits de l'homme dans ce pays. Mwamba Mushinkonke Mwamous s'entretient avec Isaac Remoyope.
Mwamba Mushinkonke Mwamous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en Ituri pour la première fois depuis votre nomination à la tête de la CNDH. L'Ituri est sous état de siège depuis 13 mois. Quel constat faites-vous de la situation des droits humains?
Comme vous le savez, nous recevons souvent des rapports. Au début, c'était tout un problème par rapport à la situation des droits de l'homme. Après une année, il y a des efforts qu'on a notés, les avancées, le travail fait par le gouverneur militaire et son vice. Mais dans la population, il y a toujours des problèmes. Soulever les problèmes des tracasseries, des arrestations arbitraires, des détentions illégales. Et nous pensons que d'ici quelques mois, avec tout ce qu'il y a comme effort dans tous les sens, la situation peut s'améliorer sensiblement.
Est-ce qu'en termes de statistiques, vous pouvez nous donner quelques chiffres pour mesurer l'évolution de la situation des droits de l'homme en Ituri?
Non, on ne peut pas aller dans le sens des chiffres, peut-être en termes de pourcentage. Avant, on mettait l'Ituri dans la zone rouge, les violations des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'avec tout ce qu'il y a comme effort, tout ce qu'on a instauré comme dialogue avec le groupe armé, ça peut aider à ce qu'on atteigne 50% d'efforts. Et déjà, c'est un grand soulagement. À aucun jour, n'importe quelle autorité dans ce pays ne pourra jamais terminer le problème des violations des droits de l'homme. Sinon, on sera en paradis. Et ce que nous insistons comme institution nationale des droits de l'homme, institution conseil des droits de l'homme, c'est d'aider l'État congolais à améliorer la situation des droits de l'homme. S'il y avait 1000 barrières et qu'on reste même avec 3 barrières contrôlables, ça devient déjà un effort.
La CNDH est une jeune institution. Vous venez d'être, par exemple, doté de votre tout premier bâtiment en Ituri. Comment comptez-vous travailler avec vos différents partenaires, notamment la société civile, pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Ituri?
Nous avons un programme. Ce programme est décentralisé dans des provinces. À chaque fin du mois, nous organisons des réunions avec les organisations de la société civile qui nous donnent des éléments de la situation des droits de l'homme. Et ces éléments-là, en termes d'information, sont fiabilisés par la CNDH avant de les publier.
Les rapports que vous recevez, qu'est-ce que vous en faites?
On les exploite. Sur base de ces rapports, nous les publions, nous montrons qu'il y a un problème. On a dénoncé les problèmes de la magistrature militaire. Maintenant, il y a des avancées. On a arrangé les audiences foraines. Il y a beaucoup. Et on a libéré certains prisonniers, donc les gens qui étaient déjà condamnés, à partir des mesures de grâce présidentielles. Nos rapports sont transmis directement au chef de l'État, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, aux cours et tribunaux, c'est-à-dire à partir de leur chef hiérarchique, par exemple au PG près de la Cassation, au PG près le Conseil d'État, au PG de la Cour constitutionnelle. Nous sensibilisons tout le monde pour que la RDC soit un pays où la situation des droits de l'homme s'améliore.
Comment jugez-vous votre collaboration avec la MONUSCO et les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme? Quelles sont vos attentes?
Nous saluons la flexibilité du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui prête l'oreille à écouter ce que la CNDH présente comme programme. Et depuis le début, c'est grâce aussi au bureau conjoint et d'autres partenaires qui ont apporté beaucoup d'activités en termes de développement institutionnel. Aujourd'hui, là où la MONUSCO a fermé ses portes, les bureaux sont octroyés directement à la CNDH, même aussi les équipements et même les matériels roulants. Les cas, par exemple, des Kananga, même les véhicules 4x4, on a donné ça à la CNDH. À Lubumbashi, la même chose. Kisangani, ils ont contribué à la réhabilitation du bureau que le gouvernement provincial a donné à la CNDH. Tanganyika, on a construit
construit
un bâtiment semblable à celui-ci, avait équipé. Donc, nous sommes dans de bonnes relations parce que c'était un partenariat fondé sur le respect mutuel.
Pour terminer, que pensez-vous de ceux ou celles qui affirment qu'il vous est difficile de faire correctement votre travail, étant donné que vous êtes l'émanation de l'État, que vos moyens de fonctionnement dépendent de l'État? Pouvez-vous prendre position contre l'État en cas de violation et l'abus des droits humains commis par des agents de l'État?
De toutes les institutions de la République, la seule, je peux vous le confirmer, la seule institution qui travaille en toute indépendance, c'est la Commission nationale des droits de l'homme. Depuis que je suis à la tête de cette institution, je n'ai jamais exécuté des mesures d'injonction venant de qui que ce soit. Donc, nous publions nos rapports en appelant les champs par son nom. Si telle autorité a violé le droit de l'homme, nous disons vous avez violé le droit de l'homme. Et jamais nous publions des rapports clandestins. Non. Quand on publie nos rapports, on invite toutes les autorités devant la salle. On leur montre, voilà, dans ce secteur, il y a eu des avancées. Mais il y a encore beaucoup à faire. Souvent, on termine par des recommandations pour aider les gouvernements à améliorer la situation des droits de l'homme.
Monsieur Mwamba Mushinkoke Mamous, je vous remercie.
Le président de la Commission nationale des droits de l'homme répondait aux questions d'Isaac Remoyope. C'est la fin de ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo, à la technique Polidor Basunga. Merci de nous rester fidèles.